7h24. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le réseau de la santé au Québec est sous une énorme pression avec l'explosion du nombre de cas, bien sûr, mais surtout des hospitalisations. On est rendu à quoi? 2400, 2500 personnes hospitalisées. Évidemment, des centaines de patients aux soins intensifs. Et on le voit partout à travers le Québec, des opérations de délestage, donc des gens qui ne seront pas opérés, des gens qui attendent, et même dans certains cas, ce sont des choix extrêmement difficiles. Vous allez comprendre pourquoi. On fait le point avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, j'ai envie de vous demander, là, avez-vous les chiffres à frais ce matin sur le nombre de patients hospitalisés COVID dans les hôpitaux du Québec?
Oui, bien écoutez, vous venez de le dire, là, 2500, puis il va s'en rajouter encore un petit peu plus que 118, 120 aujourd'hui, là. Avec les données d'hier.
OK. Ce matin, Radio-Canada dit qu'il y a 5 nouvelles régions du Québec qui basculent au niveau 4 du délestage. Donc, ça aussi, c'est vrai?
Oui, tout à fait.
Et le niveau 4 de délestage, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'on est rendu moins de 50 % des opérations. Ça va dépendre de certaines régions, mais ça veut dire qu'on opère entre 20 à 50 % de ce qu'on devrait faire, là, comparé à 100 %. Ça veut dire que c'est un niveau de délestage très élevé.
Ça veut dire qu'on ne parle pas juste de chirurgie, exemple, genou, cataracte, là. On parle aussi de chirurgie plus grave.
Alors, tout ce qui reste, c'est les chirurgies urgentes, là. Quand on est rendu à 80 % de délestage, là, ce qui reste, c'est les chirurgies urgentes.
OK. Est-ce que je comprends aussi que ça veut dire que, par exemple, pour des cas de cancer, on est obligé de renoncer à une chirurgie qui serait le plan A pour faire des traitements de radio ou de chimiothérapie comme plan B?
Non, je pense que dans la plupart des cas, parce que je suis en train de vous dire, M. Arcand, que dans certaines régions, c'est pire que d'autres, mais au niveau des opérations, par exemple, pour le cancer, etc., ça continue de se faire. Ça, c'est dans le 20-25 % qu'on ne touche pas. Mais dans les cas, par exemple, comme vous m'avez dit, que ce soit une cataracte ou opération du genou, ça, c'est sûr que malheureusement, c'est ça qu'on doit retarder. Puis je dis malheureusement, c'est pas un choix, mais on est rendu là.
Ouais. Moi, j'entends qu'il y a des cas même de cancer dont les chirurgies sont repoussées parce qu'on ne peut pas garder le patient à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de lit, puis on ne peut pas le garder. Non. Donc, plutôt que de l'opérer, on lui propose une solution B.
Ben écoutez, il y a peut-être quelques cas, M. Arcand, mais ce que je vous dis dans l'ensemble, c'est d'ailleurs pour ça là, qu'on est rendu en ce moment, et vous l'avez vu, il y a eu quelques articles aussi, qu'on est obligé de reprendre des patients qui sont à l'hôpital, qui ont été traités, soit pour COVID ou pour d'autres opérations, et là, de les retourner, même, mais on n'a pas la place dans les hôpitaux. Alors, pour justement libérer nos lits, le peu de lits qu'on a, avec le personnel qu'on a, bien, on est obligé de sortir ces gens-là. Alors, donc, pour justement éviter d'enlever des opérations qui sont urgentes, comme celles que vous venez de me décrire.
OK. Juste pour que ça soit encore plus clair, dans ce qu'on appelle les protocoles, là, vous me parlez du niveau 4 de délestage, est-ce que le statut vaccinal du patient est considéré?
Pas du tout.
Ce qui fait qu'on soit vacciné, pas vacciné, c'est le même résultat?
Pas du tout. C'est le même résultat.
Est-ce que ça peut changer?
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est une autre chose, c'est un débat de société, là. Mais la vaccination n'est pas un élément de décision.
OK. L'autre question. Est-ce que je comprends que les projections vous laissent entrevoir 2 semaines à venir, peut-être 3, l'extrêmement difficile, avec ce qu'on appelle un sommet, là, autour du 20 janvier?
Oui, tout à fait. Remarquez, les prévisions, les dernières prévisions qu'on a reçues de l'INES, là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on est exactement où ils nous avaient dit qu'on serait. Ils nous avaient dit que vers le 10-11 janvier, on serait à environ 2500 hospitalisations. On est exactement là. Alors donc, c'est pour ça que, et ça, ces prévisions-là ont été à peu près les mêmes entre le 28 décembre et celles qu'on a reçues la semaine dernière, le 5 janvier. Donc, on est exactement où on pensait. Et c'est ça qui nous a fait, entre autres, faire les mesures excessivement difficiles qu'on a annoncées le 30 décembre.
Je ne sais pas si vous le ressentez, comme beaucoup de gens le ressentent, mais il y a comme une espèce de décrochage qui est en train de se faire et qui, je dirais, dure depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, là. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez imposé un couvre-feu qui pénalise, on va se le dire, les vaccinés, les non-vaccinés, mais les vaccinés qui veulent sortir à 10 heures le soir. Vous dites, on ferme les épiceries le dimanche, alors que pour beaucoup de propriétaires, pas, c'était une bonne journée, puis pour beaucoup de gens, c'était pratique. Il n'y a pas de rassemblement. Puis on se dit, en quoi ces mesures-là ont vraiment un effet? Êtes-vous bien certain, vous, que le couvre-feu donne des résultats puis que de fermer les épiceries le dimanche, il y a moins de cas de COVID?
OK. Je vais prendre votre question en deux. La plus facile pour la question des épiceries, M. Arcan, il y a beaucoup de commerçants qui nous ont demandé de le faire. Faut le dire, là, parce qu'il y a des gens qui manquaient de personnel puis qui nous disaient pour que ça soit... faire, on a besoin de relaxer nos gens, on a besoin de leur donner congé. Il y a beaucoup de commerçants qui nous l'ont demandé, puis on l'a fait pour 3 semaines. Ça, c'est le dernier dimanche qui s'en vient. Bon, ça, c'est la première chose. Sur la question du couvre-feu, quand on a vu les prévisions dont je vous parlais, là, hein, on a vu comment ça a changé si rapidement dans le mois de décembre, on ne reviendra pas là-dessus, c'est évident que pour nous, tout ce qu'on avait dans notre coffre à outils, on l'a pris. Est-ce qu'on a aimé ça? La réponse, c'est non. Mais je regarde aujourd'hui... Regardez, on souhaite que le nombre de cas d'entrée, là, les entrées des hospitalisations, soit un point de cassure. Je ne sais pas si on l'est, mais on avait dit que 10 jours après le couvre-feu, c'est-à-dire qui a été mis en place le 30 décembre pour le 31, 10 jours après, c'est aujourd'hui, là. Alors, si on n'avait pas fait ça dans les 10 derniers jours, où est-ce qu'on serait aujourd'hui au lieu d'être à 2500 hôpitaux? Si quelqu'un a la réponse à ça, là, moi, je ne l'ai pas.
Okay,
je sais une chose. Mais non, mais je peux terminer, M. Arcan.
Oui.
Je vous dis juste qu'on a pris une mesure excessivement exceptionnelle qui ne faisait pas notre affaire. Mais où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on ne l'avait pas fait? Si quelqu'un peut me répondre à ça, tant mieux.
Oui, mais avez-vous pensé à imposer le couvre-feu aux non-vaccinés seulement?
Oui, on y a pensé. On a même discuté longtemps parce que c'était des solutions qui étaient privilégiées parmi notre équipe. Mais comment voulez-vous, si vous avez toute la population qui peut, elle, être à l'extérieur, aller trouver comment aurait pu se faire un couvre-feu pour les non-vaccinés? On en a discuté longuement, puis on s'est rendu compte que c'était difficilement opérable. Alors, on a dit, étant donné la situation critique, on a dit, on va le faire, puis je le répète, c'est la première mesure qu'on va enlever. Écoutez, on est le 10 janvier, là, il nous reste une semaine. On avait dit qu'on réévaluerait ce qu'on allait faire pour le 17 janvier. On a mis une date, là. Alors, on va regarder avancent les choses dans les prochains jours.
OK, mais je vais prendre l'expression d'Emmanuel Macron. Avez-vous dans votre coffre à outils des mesures pour écœurer les non-vaccinés?
sans le dire comme ça, même des fois, ça me le tente, parce que j'ai bien dit que je souhaitais que les non-vaccinés restent chez eux. Mais effectivement, regardez ce qu'on a fait avec... certaines mesures, là, je pense par exemple à la SAQ.
Monsieur Dubé, là, je vous arrête. La SAQ, là, sérieusement, de donner un préavis aussi long pour dire aux gens, allez faire vos emplettes, trouvez-vous quelqu'un. Là. Il n'y a personne qui va se faire vacciner pour aller à la SAQ.
On est tous frustrés. Vous le premier, moi le deuxième, ou dans l'ordre inverse. Laissez-moi terminer sur la question que vous m'avez posée. Vous m'avez dit, est-ce que vous allez faire d'autres mesures pour les non-vaccinés, je suis en train de vous répondre, comme pour la SAC, comme pour la SQDC, oui, il va y avoir d'autres mesures. Il faut les mettre en place. On va faire d'autres annonces cette semaine. Il va y avoir d'autres mesures pour les non-vaccinés.
Non, mais
c'est quoi votre
question? Ben, ma question, c'est que la SAQ, ce n'est pas une vraie mesure. Je m'excuse, là, ça ne change rien. Il y a pas... Trouvez-moi un Québécois qui va se faire vacciner pour aller à la SAQ.
Bien, écoutez, M. Arcan, je vous dis... Depuis qu'on a fait cette annonce-là, j'ai triplé le nombre de premières doses à tous les jours. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qu'on a annoncé avec la SAQ, puis ce qu'on a annoncé avec la SQDC, c'est une tendance. On a dit, écoutez, le passeport vaccinal, son application, va être élargi. On vous donne 2 exemples tout de suite, SQDC, SAQ, et il y aura d'autres mesures. Depuis qu'on a annoncé qu'il y aurait d'autres obligations, d'autres endroits, où le passeport vaccinal serait exigé. C'est une ligne claire qu'on a annoncée. Puis on a dit, M. Arcan, que même on va demander la 3e dose pour qu'elle soit inclue. Alors, il y a une direction pour les non-vaccinés. Vous vous faites vacciner ou vous ne pourrez pas sortir. C'est très clair.
Quand le ministre Jean-Yves Duclos dit la vaccination obligatoire, c'est un incontournable. Êtes-vous d'accord avec lui?
Ben écoutez, je pense qu'il s'est exprimé personnellement. Moi, je vais vous dire une chose. Je me suis promené là pendant 10 jours en commission parlementaire pour faire la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Vous savez comment ça a été difficile. En ce moment, on a deux choix. Ou bien on fait la vaccination obligatoire, ou bien on demande le passeport vaccinal à plus d'endroits. C'est quoi la différence entre les deux? Moi, je vous dis, en ce moment, là, la route qu'on privilégie, c'est d'augmenter les endroits où on va demander le passeport vaccinal.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'à Montréal, je voyais ça hier sur les réseaux sociaux, parmi les gens non vaccinés et qui se retrouvent à l'hôpital, là, c'est pas juste des militants anti-vax. On a beaucoup de gens qui, pour des raisons de barrières linguistiques, de culture, j'allais dire, attrapent pas le message, comprennent pas trop, réalisent pas. Donc, c'est pas des militants contre le vaccin, c'est des gens qu'on n'arrive pas à rejoindre. Est-ce que c'est vrai?
Oui, je pense qu'il y a encore un enjeu de communication, qu'il soit de langue, de culture, de religion. Ça fait longtemps qu'on dit. Ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là, ça revient à votre autre question de tout à l'heure, c'est des gens qu'on finit par rejoindre dans leur quotidien. Quelqu'un là, qui n'avait pas compris ça, là, peu importe s'il n'écoute pas votre émission du matin ou qu'il lit pas les journaux ou qu'ils sont pas dans sa langue, peu importe. C'est des gens, en mettant les mesures pour les non-vaccinés, qu'on finit par rejoindre comme ça. Alors, voilà, c'est pour ça que notre approche, elle est de cette façon-là, d'étendre l'obligation du passeport vaccinal.
Est-ce que vous faites toujours confiance au docteur Arruda?
Oh, écoutez, je pense que la personnalisation du docteur Arruda sur l'excellent travail qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est une chose. Docteur Arruda, là, il trouve ça comme plusieurs d'entre nous en ce moment, ils trouvent ça très, très difficile. Je pense que de personnaliser le cas de Dr Arruda, c'est le choix de certains. Dr Arruda, je pense qu'il fait son possible. Ça fait 22 mois qu'il est sous le gun, comme on dit. Là. C'est difficile pour Dr Arruda, je peux vous le dire. Moi, je le fréquente plusieurs fois par semaine. C'est très difficile pour lui en ce moment-là.
Mais c'est pas juste un jugement sur ce qu'il fait depuis deux ans. Là. Je pense que des fois, tu as besoin de prendre une pause. Parfois, tu as besoin d'avoir des avis autres que ceux qu'on entend depuis deux ans. C'est peut-être le moment de faire un changement.
Écoutez, il faut juste pas oublier, M. Arcand, qu'on est tous des humains là-dedans. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Regardez, là, moi, en ce moment, là, je vais vous dire, j'ai vraiment... trois priorités. J'ai vraiment trois priorités. La première, là, pour moi, là, c'est de m'entendre avec les syndicats pour qu'on puisse avoir des travailleurs additionnels. Il me manque 1000 lits. Ça veut dire que ça me prend 3 000 à 4 000 personnes qui rentrent d'ici une semaine. Ça, c'est ma priorité parce qu'en ce moment, il me manque 1000 lits pour faire face aux hospitalisations dans une semaine. Ça, c'est ma première priorité. La deuxième priorité, c'est de vacciner tout le monde. En ce moment, là, si j'avais une priorité à vous dire, à part celle que je viens de vous dire de m'entendre avec les syndicats, là, c'est de vacciner le plus de personnes possible, puis c'est ça qu'on fait. Maintenant, comment on va faire pour que tout ça arrive dans le mois de janvier? Ben écoutez, tout le monde travaille, puis on est là-dessus. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'on peut pas tout faire en ce moment, mais on fait une chose. On travaille sur ces deux priorités-là. Ravoir du monde dans le réseau pour donner un coup de main à ceux qui sont là, qui porte le flambeau depuis plusieurs mois, mais aussi faire un effort de vaccination. On va étendre nos heures de vaccination. On est en train de tout faire ça. C'est là qu'on est en ce moment.
OK. Juste pour préciser davantage votre priorité en ce qui concerne les lits disponibles, il y a l'enjeu de patients qui, par exemple, sont des gens qui ont été traités à l'hôpital, dont le traitement actif est terminé, qui ont la COVID, qu'on veut retourner dans des centres de soins de longue durée ou des RPA, là, des résidences, ouais. Et qu'on garde à l'hôpital puis qui occupent des lits qui ne devraient pas occuper. Là, c'est un vieux problème et qui prend encore plus de pertinence aujourd'hui. Avez-vous peur d'envoyer des patients vers les CHSLD pour ne pas revivre le drame de la première vague?
Mais on est vraiment dans un contexte différent de la première vague. On doit le faire en ce moment dans certains endroits, comme dans les Laurentides, on le fait. On a deux choix avec ce qu'on appelle dans notre jargon, là, ça s'appelle des NSA, des soins alternatifs. Là. C'est des gens qu'on a fini de soigner, mais qui doivent aller ailleurs, soit dans un CHSLD ou retourner dans leur résidence. En ce moment, les retourner dans des CHSLD, ça peut se faire parce que toutes nos exigences en matière de contrôle des infections, on est vraiment mieux, meilleur de ce qu'on était dans la première vague. Donc, en autant qu'on respecte les conditions, que ces gens-là aient passé un test, etc., on peut le faire. Alors, donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On n'est pas du tout dans le même...
OK, mais actuellement, là, il y a combien de lits là, occupés par des gens qui devraient être ailleurs, selon vous, dans le réseau?
Environ 600 lits.
Et donc, ces gens-là vont partir éventuellement? Ils restent à l'hôpital?
Mais ça a toujours varié entre 300 et 1000 lits, ce qu'on appelle des NSA, là, des gens qu'on doit replacer une fois qu'ils sont guéris. C'est sûr qu'en ce moment, étant donné le haut volume d'hospitalisation qui rentre tous les jours, dont on discutait tout à l'heure, mm-hmm. de 300-400 par jour, ben c'est évident qu'on en a plus maintenant. Okay? Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il a fallu s'assurer, puis c'est ce qu'on a fait, que quand on les retourne en CHSLD, ils arrivent dans un endroit qui est correct pour eux. Et ça, on le fait. Alors, c'est pas un enjeu comme ça avait été dans la première vague.
OK.
Je sais pas si ça répond à votre question.
Absolument. Dernière question, un peu en marge de ça. Il y a des hôtels qui lèvent la main en disant, nous, on peut en prendre des gens peut-être sur des étages. Est-ce que c'est une option de transférer des patients à COVID, les sortir de l'hôpital? Ils ont besoin d'une présence moins grande là, de soins?
Bien, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux choix. On les envoie soit dans les CHSLD ou ce qu'on appelle, ce que vous venez de dire, un hôtel, là, c'est un site alternatif. On a déjà des sites alternatifs. Les gens connaissent bien l'image du Lowe's, le Concorde, par exemple, à Québec, dans le temps de la première vague. Là, on est en train de faire des ententes avec des hôteliers. On en a déjà fait pour que lorsqu'on ne peut pas le faire dans un CHSLD, on puisse le faire dans ces sites alternatifs-là. La réponse est oui.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Christian Dubé, ministre de la Santé, 7h41.